Les cascadeurs, ils ont tellement le seum qu'on les met jamais en avant, paraît que maintenant ils font des films eux-mêmes. Et paraît même qu'ils sont bien.
Allez du cinéma ! Allez du cinéma, bonjour !
Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. The Fall Guy est en salle, le blockbuster de la castagne et de la cascade, avec Ryan Gosling et Emily Blunt, qui inaugure un futur mois de mai plein de surprises américaines à gros budget. Est-ce que ça démarre mal ou est-ce que ça sent bon ? Je vous donne mon avis. À côté de ça, c'est lundi, c'est le bistrot d'Andrew qui ouvre ses portes avec 4 nouveaux cinéphiles venus parler d'un film qui leur tient à cœur. Il y aura pas mal d'animations, des zombies et même Guillaume Gallienne. Et bien entendu, il y aura une question du public mégalopolesque et Unfrosted, la comédie Netflix qui sent le cringe et les pop-tarts. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites. Déjà, vous avez fait le bon, c'est super, mais suivant votre choix, vous avez du contenu exclusif. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux, que ce soit Spotify, iTunes ou même YouTube. Pensez bien à activer la cloche. Pourquoi je l'ai dit comme ça, la cloche ? Bon, le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec le sujet du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes ?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
Le cinéma est un monde plein de surprises. Des fois, on te tease un film pendant des mois, tu le sens vraiment pas, et finalement, tu le vois, et en fait, t'avais juste mal senti. Parce que ça fait un moment que je vous parle du film The Fall Guy, sorti mercredi dernier en salle, et qu'à chaque nouvelle bande-annonce, je peux pas m'empêcher de dire que oui, bon, ça a l'air sympa, mais on s'en fout, non ? Ça sentait vraiment le blockbuster débile pour passer le temps sans grand intérêt, avec Ryan Gosling qui profitait de la vague de coolitude qui s'était pris en jouant Ken dans les films Barbie. Les interviews pendant la promo de Fall Guy, on lui posait que des questions en mode « Hey, tu te souviens de Ken dans Barbie ? Faut passer à autre chose, hein, un moment, faut grandir. » Le truc que je vous ai toujours dit, c'est « Il faut voir le film avant de donner un avis dessus. » Et quand on a vu le film, il faut aussi assumer de pouvoir dire « Oui, bon, il est possible que je me sois trompé. » On peut pressentir un truc et se planter derrière. Et concernant The Fall Guy, oui, effectivement, on pouvait pressentir que ça allait puer quand on voyait qui était à la tête de ce projet. Le film est réalisé par David Leitch. David Leitch qui, avant de devenir réalisateur, a fait un paquet d'autres trucs. Il vient du monde des cascadeurs, des chorégraphies de combat. Ses premières armes, il les a fait sur la série Buffy contre les vampires. Et après, bon, je vais pas citer tous les films sur lesquels il a bossé à ce poste, hein, mais ça va de Fight Club à Ocean's Eleven, parce que, en fait, il était la doublure de Brad Pitt, mais il a aussi bossé sur Matrix 2 et 3, sur les Spartiates de 300, ou encore la saga Jason Bourne. Et en parallèle de gérer comment allait se dérouler la cascade, il a commencé à s'occuper de comment elle allait être réalisée aussi, en devenant, sur certains longs métrages, réalisateur seconde équipe. Ce qu'on appelle réalisateur seconde équipe, et notamment sur les films américains, c'est un second réalisateur qui va prendre le relais sur des très très gros films concernant des plans où il n'y a pas, par exemple, l'acteur principal, qui sont des plans un peu moins importants. T'es réalisateur d'un film à 200 patates, tu peux pas te permettre d'être sur tous les fronts en même temps. Tu dois gérer les plans les plus importants et faire confiance à quelqu'un pour gérer, je sais pas, un plan d'ensemble sur une ville, ou alors un coup de poing filmé d'une certaine manière. Et c'est pour ça d'ailleurs que David Leitch a géré pas mal les parties combat. Du coup, David Leitch, quand il a pris ce poste, il a commencé à s'entraîner à la réalisation. Et ses premières armes, il l'a fait chez des cinéastes asiatique, à savoir notamment Ringo Lam ou encore Ryuhei Kitamura. Et plus tard, bon, il bossera sur plein de trucs, hein, sur Time Out, sur Wolverine au Japon, oui, je l'appelle comme ça, le combat de l'immortel, je trouve ça plus marrant, et même sur Jurassic World ou encore sur Captain America Civil War. Un gros CV donc, tu te dis, le mec, quand il va faire son premier film, il va faire que des dingueries, ça va être incroyable. Puis là, bah, tu regardes sa filmographie et ouais, je suis désolé, on souffle fort. Je cite pas John Wick, techniquement c'est son premier film, mais il est pas crédité dessus. Non, son premier vrai film, c'est Atomic Blonde. Et je suis désolé, c'est un peu flingué, Atomic Blonde. C'est pas nul, c'est juste moyen, c'est basique, c'est oubliable. Enfin, c'est toujours mieux que le film qu'il fera juste après, parce qu'il a enchaîné après Atomic Blonde sur Deadpool 2. Déjà que le 1 était pas dingue, le 2, c'est encore pire. Moins de personnalité à la réalisation, tu meurs. Mais bon, les grosses franchises, elles cherchent un peu ça. Pas trop de personnalité, quelque chose que tu peux modeler à ta façon. C'est pour ça qu'après, il a réalisé le spin-off de Fast and Furious, Hobbs & Shaw. Là aussi, donc, c'était insipide à crever. Est-ce que vous comprenez pourquoi je le sentais pas, Fall Guy? Le seul film qui sort un peu du lot, c'est son Bullet Train, qu'il a sorti il y a 2 ans, et encore là, j'étais pas totalement convaincu, parce que c'est bourré de gimmicks qui sont assez insupportables. Les scènes de combat sont marrantes, mais ouais, en sortant du film, j'en ai pas retenu grand-chose. Si ce n'est ces fonds verts moches. Oh putain, dans la dernière partie, il y a des fonds verts d'une dégueulasserie infinie. J'aime pas le style du mec, j'aime pas ses histoires, j'aime pas le vide qui parcourt son cinéma. Alors, comment ça se fait que j'aime autant The Fall Guy ?
We need you to find him.
Why me?
You're a stuntman. No one's gonna notice whether you're here or not. No offense.
I mean, sound taken.
The Fall Guy, donc avec Ryan Gosling et Emily Blunt, ça raconte l'histoire d'un cascadeur qui a quitté le métier après une mauvaise chute, mais va décider de refoutre les pieds sur un plateau pour aller bosser sur le premier film de son ex-copine qui à la base était cadreuse. Sauf qu'en revenant sur ce plateau, il y a un autre but, il est pas là que pour faire de la cascade, non, la productrice veut qu'il retrouve l'acteur principal du film qui a disparu depuis quelques jours dans des circonstances un peu mystérieuses. Donc tu vas suivre à la fois le cascadeur sur le plateau et en même temps le cascadeur qui mène l'enquête, voilà, c'est ça le pitch du film. Et je vous avouerai que quand il a démarré, dès la première scène, je le sentais mal. Parce que dès la première scène, il t'impose une voix off qui est super plombante, qui sert à rien, qui te raconte juste ce que tu vois à l'image, sans qu'ils l'ont rajouté après une projection test, vraiment c'est inutile. Et ça essaye de faire des effets de petit malin avec son plan séquence, pas vrai plan séquence. Et je me dis, merde, ça y est, c'est le retour de Bullet Train, que de la gueule et des muscles en plastique. Non mais c'est bon, je vais me barrer, ça suffit. Et en fait, c'est super. Vraiment, j'ai passé un super bon moment devant The Fall Guy. Et j'en tiens pour preuve le fait que quand je vais au cinéma, je prends des notes sur les films que je vois, histoire, si je pense à un truc, de m'en rappeler pour pouvoir le dire dans l'émission. Et en fait, ma prise de notes s'arrête à la moitié du film, tellement j'étais dedans et que j'avais plus envie d'écrire. Parce que, bon, je vais sortir un argument qui est invérifiable, hein, vraiment c'est que du ressenti, mais je ressens devant le film une véritable sincérité dans sa mise en lumière du cinéma et son envie de partage d'action. Je parle de mise en lumière du cinéma parce que le film suivant un cascadeur, eh ben on va être amené à découvrir ce qui se passe derrière la caméra. Et pas juste un tournage de film fantasmé, non. Une reproduction d'un Hollywood qui ressemble au Hollywood actuel. Ça se veut être bien concret. Alors, ça va rappeler des choses aux gens qui me suivaient pendant la grève, mais le fait qu'au début du film, en arrivant sur le plateau, Ryan Gosling se fasse scanner pour qu'on ait un modèle 3D de son visage, et qu'après, il y a un petit tacle en plus dans le dialogue, je me suis dit « Oh, vas-y, film, vas-y, donne-moi ça !» Parce que dire « The Fall Guy, c'est un hommage au cinéma », ça veut tout et rien dire, t'as dit ça, t'as absolument rien dit. Ce qui est intéressant, c'est le point de vue sur cet hommage. Un point de vue qui va être orienté sur les petites mains de cette industrie. Les travailleurs de l'ombre, ceux qui ont d'habitude pas les honneurs des tapis rouges. C'est pour ça d'ailleurs que dans la promo de The Fall Guy, il y a eu autant de fois des cascadeurs mis en lumière. C'était un peu le moment où jamais. Eh, hey, il faut se bouger un peu le cul les Oscars, hein. Ce serait cool de créer la catégorie maintenant. Ce point de vue est politique. Il s'oppose aux grosses machines déshumanisantes et essaye de montrer que même sur des films américains au gros budget, le plus important, ce sont les petites mains à l'œuvre qui fabrique la magie. Parce qu'au-delà de l'image numérique, ce sont tous ces petits détails qui font le film. Alors, parfois c'est un peu plus in your face, hein. Je pense notamment à une séquence en particulier qui veut rendre hommage à une forme de langage cinématographique, à savoir la séquence du split screen. Mais je trouve qu'elle fonctionne parce que le split screen n'est pas juste utilisé factuellement, non. On utilise un truc et quitte à utiliser ce truc dans le langage cinématographique, jouons avec, amusons-nous, faisons des bêtises. On dirait vraiment une séquence d'un film qui date d'il y a plusieurs décennies, de découverte d'un langage. Et je trouve ça beau, je trouve ça pur. C'est un film qui te hurle que le cinéma c'est cool. C'est cool quand tu t'amuses, c'est cool quand tu prends le cinéma comme un jeu et pas juste comme un cahier des charges à remplir. Je sais que ça peut embêter des gens qui sont passionnés par l'image numérique, mais vraiment c'est revenir au réel et c'est pousser à son paroxysme dans le dernier acte. C'est vraiment comment la réalité devient cinéma. C'est ça, la réalité du film devient sous nos yeux cinéma. Même la relation romantique entre les deux personnages devient du cinéma. Et grâce à qui ? Bah grâce avant tout à des petites mains qui savent faire, grâce avant tout à des gens passionnés de magie. Donc voilà, j'adore ce que le film raconte, et en plus je trouve qu'il le fait avec une certaine malice, avec une vraie envie de partage. Personnellement, l'humour du film fonctionne sur moi, c'est-à-dire que Ryan Gosling est présenté comme cette figure qui est incassable, tout peut lui passer dessus, il se relèvera après, bah tu le retrouves quand même tout fragile dans sa voiture en train d'écouter du Taylor Swift et ça me fume. Voir aussi que dans le film, il s'amuse à faire des scènes d'action avec des armes qui sont annoncées comme n'étant pas des vraies armes, c'est-à-dire que dans un film, on t'annonce que ce que tu vois, ce sont des props de cinéma, et donc ça peut donner un petit côté cartoon, encore une fois, la malice d'être derrière la caméra. Ou alors en créant un gimmick et en le poussant à fond. Je parlais de la figure de Ryan Gosling incassable, mais qu'est-ce qui se passe si on va dans sa tête ? Tiens, qu'il se drogue et que lui se ressent incassable à un niveau pas permis. Bah ça donne une séquence qui est assez jouissive. Et c'est pourtant pas une des séquences les plus réussies, parce que justement elle joue beaucoup sur des effets numériques, c'est au contraire les choses plus réelles qui plaisent une nouvelle fois. Et puis par-dessus ça, on va t'ajouter des scènes avec par exemple du décalage dans le montage alterné, c'est-à-dire une grosse scène de course-poursuite et en même temps derrière, quelqu'un qui chante un morceau de Phil Collins. Il y a vraiment une inventivité constante dans le film, notamment dans le travail du second plan. Parce que on veut te montrer que le monde du cinéma est un monde extrêmement vivant, que ça peut pas juste être deux personnages qui discutent, il faut que ça grouille, il faut que ça vive à l'image. Je sais que des gens haïssent le mot « cool » parce que en vrai, il veut pas dire grand-chose, mais en quelque sorte, The Fall Guy a comme projet politique de démontrer la coolitude du cinéma. C'est vraiment en faire un statement pour faire ressortir tout ce qui est plaisant dans le monde du cinéma face aux grosses machineries hollywoodiennes, face aux producteurs dégueulasses et face parfois à des carrières et des corps brisés. C'est clairement ça, hein, les grosses machineries qui s'en battent les couilles des cascadeurs et qui les laissent se briser en deux. On a plein d'exemples de cette histoire. Et il y a un chien. Alors, c'est mon argument le plus pauvre, mais il s'appelle Jean-Claude, en hommage à Jean-Claude Van Damme, et bon, ouais, bon, ça m'a eu. Voilà, ça m'a eu aussi, c'est bon. J'en reviens à mon argument de départ qui était ce ressenti de sincérité. Bah, ce ressenti de sincérité devant du gros cinéma américain moderne, ça fait longtemps que je l'ai pas ressenti. C'est un truc qui se perd au profit de fonds verts ternes. Et forcément, le film, de par son envie de cinéma, se démarque naturellement de la masse, donne l'impression parfois de regarder justement certains films assez jouissifs du milieu des années 80. C'est pas pour rien que son inspiration, et là d'où il vient, c'est la série L'homme qui tombait à pic. Voilà, tout se recoupe. L'homme qui tombait à pic, l'homme qui tombe à pic, j'ai un doute. Les commentaires répondront mieux que moi à cette question. Donc voilà, il faut reconnaître quand on s'est trompé et vraiment, j'allais voir The Fall Guy en me disant, bah quand je vais rentrer, je vais tourner l'émission et je vais dire que c'est tiédasse, quoi, que c'est moyenasse et puis d'autres trucs en as. Là aussi, j'ai plus rien. Je pensais vraiment que ce serait un film oubliable et avec du recul, non, je suis pas certain de l'oublier celui-là parce qu'il m'a fait beaucoup de bien et j'ai presque envie de le revoir aussi. Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être ça, ouais, c'est peut-être ce qu'on appelle la magie du cinéma.
Nothing like a good twist.
Who doesn't love a twist?
C'est lundi, c'est l'heure du bistrot d'Andrew. Vous savez, d'habitude, le lundi, quand j'ai le temps et que j'arrive à monter un bistrot d'Andrew en entier, vous en avez un dans l'émission. C'est vous, des personnes de la communauté, la commu, comme disent les vieux, qui passent dans l'émission parler de cinéma. Profitez de ce bistrot d'Andrew. On a tourné les derniers ce week-end, ce qui fait qu'après celui-là, il en reste 4 et c'est terminé. Donc c'est un peu maintenant ou jamais de profiter des bistrots. 4 cinéphiles, 4 films, une envie commune de partager du cinéma avec le plus grand nombre. Andrew, c'est à toi.
C'est une excellente question.
Qu'est-ce que vous voulez comme remontant ?
Je vous fais confiance.
Bon.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Bistrot d'Andrew. Comme chaque semaine, j'ai 4 invités. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de...
Solène.
David.
Paué.
Et Marc.
Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Solène ?
Je travaille en cinéma depuis 10 ans. J'ai aussi bien travaillé sur les plateaux dans le département caméra qu'en post-production au niveau du montage. Puis dernièrement, je me suis un peu plus lancée comme critique de film pour un webzine en ligne qui s'appelle lepetit7ème.ca.
Ouh, on va aller voir ça.
Moi, je travaille dans le film d'animation.
Nice.
J'ai travaillé aussi dans le VFX. Ça fait 7 ans, j'ai commencé en arrivant à Montréal.
Oh ouais.
Je suis employée dans une salle de cinéma dans les Laurentides. C'est moins impressionnant, mais...
C'est dans le cinéma, c'est
cool. Bah, c'est ça. Je suis dans l'industrie d'une manière ou d'une autre.
Yeah. Et toi?
Je me cherche encore, mais je travaille pour une compagnie d'entretien, en fait. Donc, voilà, le temps de me trouver.
Alors, on va commencer avec David. Donc, tu vas nous parler d'un film aujourd'hui qui est...
Oui, je vais vous parler de Nimona. Donc, c'est un film qui a eu beaucoup de problèmes au niveau de la production. Donc, à la base, il devait être réalisé par les studios Blue Sky, mais quand la 20th Century Fox a été rachetée par Disney, ils ont annulé le projet et c'est Annapurna Animation qui a repris le projet et l'a réalisé avec la collaboration de Dineg Animation, Dineg où j'ai travaillé, et je suis bien content qu'il ait sorti parce que déjà j'ai adoré le livre avant.
Donc c'est issu d'un livre à la base.
Oui, okay. C'est issu d'un.
Ça sur la table depuis tout à l'heure.
C'est issu d'un roman graphique qui m'avait déjà beaucoup plu, très pro-LGBT et tout ça, et le film a été un vrai succès.
J'ai vu qu'il avait une direction artistique, un style d'animation qui était vraiment magnifique dans les trailers en tout cas.
Oui, alors c'est quand même très différent de ce qu'on voit chez Disney et Pixar, là. C'est beaucoup moins réaliste, beaucoup plus self-shading on va dire, un peu plus 2D, 3D stylisé 2D. Donc en fait Nimona c'est un personnage qui est très en deçà de la société et qui veut se trouver comme un maître criminel parce qu'elle se considère comme une sidekick. Donc elle va trouver ce chevalier qui est accusé de meurtre et elle va vouloir devenir son sidekick parce qu'elle est persuadée qu'ensemble ils vont faire le plus grand mal possible. Et au final elle se rend compte que le chevalier a été accusé à tort et ils vont essayer de démêler un peu toute cette affaire ensemble.
Et c'est vraiment très cool. Moi tu vois je l'ai vu hier donc c'est encore super frais.
Ah, tu l'as
vu? Oui, je me suis dit je vais faire mes devoirs, yes. Je connais pas, et tu vois ça a beaucoup résonné avec la créature de Frankenstein. C'est-à-dire que, bah, on se sent profondément exclu de la société parce qu'on est considéré comme un monstre. Et finalement, en soi, ce personnage-là, je l'ai trouvé très intéressant. Peut-être pour son côté badass, puis un peu evil, on va pas se cacher. Mais surtout parce qu'elle est, rejetée pour ce qu'elle est, en fait. Après, c'est sûr qu'on est en 2024, donc c'est toujours happy end. Mmh. Je pense que Mary Shelley, elle a été moins sympa avec sa créature, mais ça résonne beaucoup avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui, par exemple.
On peut le mettre dans la catégorie des bons films d'animation.
Il a quand même été nominé aux Oscars, donc...
Oh, wow, OK.
Oui. Moi, je dirais que oui. J'ai beaucoup aimé, justement, le travail d'animation sur les expressions faciales de Nimona. Ça la rend immédiatement attachante, vraiment du gros gremlin energy.
Gremlin energy.
Ouais.
J'aime ça.
Bah, du coup, on va passer à Solène.
Oh. Alors moi, c'est un peu particulier. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui n'est pas encore sorti. En fait,
bah, dans le turfu.
Donc en fait, c'est pas vrai. Il est sorti en avant-première l'année dernière au festival Fantasia, qui est un super festival de genre science-fiction, horreur, aussi bien international que asiatique. C'est quand même un film en clôture, qui clôturait le festival, qui a été élu prix du public avant les Chambres Rouges. Je regarde un peu Victor loin.
Il est là en bas. Ouais.
Je ne réagis pas à cette discussion. Par contre, tu nous as toujours pas dit quel était le nom du
film. Et qui s'appelle, c'est vrai, We Are Zombies des RKSS. Donc, il y a un trio de réalisateurs. Une réalisatrice, deux réalisateurs.
Nice.
RKSS qui veut dire World Kill Superstar. Anouk Whistle, Johan Karl Whistle et François Simard. Ils se connaissent quand même depuis l'équivalent du lycée. Et ils ont sorti Turbo Kid, Summer 84. Et donc là, c'est leur troisième opus, We Are Zombies. Et ils vont sortir un film qui ne sortira pas encore ici, mais qui va sortir en France, qui s'appelle Wake Up, qui va sortir le 8 mai prochain. C'est pour ça que je voulais quand même faire une bonne présentation, oui. Parce que je pense qu'en France, vous allez en entendre parler. L'histoire, ce que c'est qu'on a trois protagonistes qui habitent dans une ville où, cette fois-ci, les zombies sont considérés comme des citoyens. Enfin, ils militent pour être citoyens, non traditionnels. Ils sont pas du tout cannibales et ils vont pas déchiqueter tout le monde. Et nos trois protagonistes principales, donc des jeunes un peu loubards, un peu truands, ont décidé de monter tout un mini réseau pour aller justement voler des zombies, les revendre au marché noir.
Est-ce que c'est un truc qui est drôle ou c'est...
C'est très drôle.
Ok, d'accord. Genre à la Zombieland un peu ou...
Alors, c'est un peu Shaun of the Dead, un peu Zombieland. C'est très rafraîchissant parce qu'on s'est mangé des zombies pendant des années. Mais c'est aussi, il faut quand même, je le dis, une adaptation d'un roman graphique qui s'appelle The Zombies Who Hate the World et dont l'auteur a participé au scénario. Il y a de l'humour, c'est très gore, il y a des très bonnes scènes qui rebondissent, etc. Puis l'équipe du film a vraiment travaillé fort. Mmh. Faut quand même le souligner. Pour un film de genre québécois, je voulais vraiment en parler pour que, avec l'espoir que
les gens le voient.
Que les gens le voient et surtout qu'on redéfinisse un peu le genre au Québec parce que je sais que les producteurs, productrices, c'est pas là-dessus qu'ils vont miser. Et il y a un réel public pour ça au Québec. Il y a vraiment beaucoup de talent. Non, la musique est bonne. Enfin, tout est vraiment pertinent. Après, le sujet, on n'aime pas, mais je le recommande vivement.
C'est rafraîchissant. Ça vous donne envie de le voir ? Oui ?
Oui, je me permets juste de dire un mot parce que je trouve ça intéressant que tu parles de Fantasia et plus généralement de cinéma de genre québécois parce que depuis que je vis au Québec, je découvre justement à quel point il y a une envie de cinéma de genre au Québec qui est hallucinante. Mais un cinéma de genre assez décomplexé, qui varie les styles, qui tente des choses. Et c'est marrant, notamment, qu'on ait eu à Fantasia cette année, tu citais les Chambres Rouges, mais justement, deux extrêmes de ce que peut être le cinéma de genre québécois, et qu'on a vu se manifester par d'autres trucs cette année. Je pense à ce qu'ils ont fait plus dans le thriller, avec Crépuscule pour un tueur, avec... on a eu Lucy Grizzly Sophie aussi, tout récemment. Et puis, il y avait eu, l'année dernière, de l'ASF avec Viking. Ouais. Je suis assez étonné qu'on produise pas énormément de films par an au Québec. On en produit quand même autour de 20-25, mais qu'il y ait une surprésence justement des tentatives de cinéma de genre, des tentatives de cinéma bis, de tentatives de cinéma alternatif pour une nouvelle génération. Je trouve ça super. Voilà, c'était juste ma petite remarque. Voilà.
Bah, du coup, sur ça, on va passer à toi, Power. Tu vas nous parler d'un super film.
Oui, je suis venue vous parler de Metropolis, celui de 2001 par Lintaro, qui est une adaptation du manga de Tezuka Osamu. Vous le connaissez sûrement pour Astro Boy, Kimba the White Lion. Ça se passe dans la ville de Metropolis,
ouais.
Qui est une ville où les humains et les androïdes vivent ensemble en une harmonie un peu factice. Il y a beaucoup de discrimination contre les robots, l'intelligence artificielle. Puis, on suit un jeune homme qui s'appelle Kenichi et son oncle, qui s'appelle, je pense, Shunsuke Ban, quelque chose comme ça, qui vont rencontrer un robot qui s'appelle Tima, passé mystérieux, puis on va en apprendre plus sur elle. Puis, c'est lié avec le Ziggurat, qui est une entité, on sait pas trop c'est quoi, mais quelque chose que le maire non officiel de Metropolis veut introduire pour supposément rendre les gens plus heureux.
Et du coup, c'est une réadaptation de 1927?
Plus ou moins. C'est un peu comme une réinterprétation du classique de 1927, mais c'est aussi une adaptation très, très loose du manga de Tezuka Osamu. Le film emprunte vraiment beaucoup plus au film de 1927 de Fritz Lang que le manga de Tezuka Osamu. Puis, il y a une équipe monstre qui a travaillé sur le film aussi. On parle de Lintaro, quelqu'un qui était très proche de Tezuka à l'époque. Le film a été écrit par Otomo Kasuhiro, que vous connaissez probablement pour Akira.
Oh, bah oui.
Oui. Oui.
Tout le monde connaît Akira.
Oui. C'est lui qui a écrit le film, pas réalisé, mais c'est lui qui a écrit. Fait que bon, d'une société dystopique un peu cyberpunk, ça, c'est son style. Puis oui, c'est une réinterprétation du film de 1927.
Tu conseillerais de voir lequel? Plutôt le film original ou la réinterprétation?
Je conseillerais de voir les deux, parce que les deux, c'est des films qui ont des mérites. La production du film de 2001 est fantastique, l'animation est merveilleuse, la musique, c'est du bon gros jazz, vraiment cool. C'est un saxophoniste qui a fait la soundtrack. Mais je trouve que contrairement au film de 1927, celui de Fritz Lang, qui est bon, un chef-d'œuvre indisputé naturellement, le film de 2001 est un peu vain.
OK.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens extrêmement talentueux qui ont travaillé dessus, mais même si les étoiles se sont alignées, on dirait qu'ils ont comme pas brillé assez fort.
Ah ouais?
Ouais, le film manque de profondeur, je trouve, surtout dans son troisième acte, qui est honnêtement un peu décevant, mais ça vaut la peine de le voir quand même, parce que c'est un film de 2001 qui réinterprète un classique German de 1927, c'est quelque chose pareil. Puis de voir le parcours de Otomo, de Lintaro, c'est un film important quand même.
Et du coup, on va passer à toi, Marc.
Oui.
Alors du coup, tu vas nous parler de quel film?
Les garçons et Guillaume à table, de Guillaume Gallienne. En fait, ça parle de l'éducation d'un jeune garçon dans un milieu très, très féminin, oui, de par sa maman, qui est son idole, sa référence. Mmh. Il grandit aussi dans un milieu très, j'ai pas le mot, mais
bourgeois.
Oui, voilà, très bourgeois. Voilà, bourgeois. C'est ça, exactement. Il fait toute son évolution autour de sa maman, de ses recherches personnelles par rapport à sa sexualité, ce genre de choses.
Tout le long, il dit qu'il est pas gay quand même.
On sait pas. Il sait pas. Il teste des choses sans tester, des choses qui lui font peur, mais en même temps ça égaye sa curiosité. Donc, je dis pas que je m'identifie à ce genre de garçon, mais à son histoire, mais c'est plus par rapport à son évolution dans la vie, quand on est adolescent, on teste des choses, parfois ça peut être des choses très bêtes, très intelligentes, et on est un peu insouciant, donc j'aime beaucoup ce côté où, ouais, dans le film, il est plus dans les recherches d'expérience et de se trouver exactement, là. La trame de base, c'est, ah ouais, il se cherche, il est homosexuel, et en fait, c'est pas du tout ça, là. C'est toute autre histoire. Mais c'est aussi par rapport à l'éducation qu'il a, par rapport à sa maman qui l'imite très bien, en plus, puisqu'il joue son propre rôle plus le rôle de sa maman.
Ok. Ah, ok.
Et il a un père qui est très contre tout ça, là, qui le rejette.
Yikes.
La base.
Voilà. Je trouve que c'est une belle leçon de vie. Après, la finalité, elle est scalée, tant mieux pour lui, du moment qu'il se trouve et qu'il est heureux dans sa vie, c'est très bien comme ça, là. Je me suis un petit peu identifié là-dedans, donc.
Je crois que Victor voulait dire quelque chose.
Oui, tout à fait. Bah, je vais jouer le gros cinéphile à la con. Personnellement, j'ai été assez marqué à l'époque où je l'ai vu. Le film m'a énormément ému. Les garçons et Guillaume à table, c'est un film dont je trouve la finalité justement très belle et c'est nous amener ailleurs. Mais j'avais été assez marqué par la manière que Guillaume Gallienne a d'utiliser la musique dans le film. Il y a notamment un morceau que j'arrive plus à dissocier de ce film depuis que je l'ai vu. C'est Don't Leave Me Now de Supertramp, où tu as cette séquence où Guillaume Gallienne tombe dans la piscine au ralenti après une désillusion et tout. C'est le genre de scène et d'instant de cinéma qu'il arrive à créer
En plus, en adaptant un truc qui à la base vient du théâtre, c'est un truc qu'il avait joué sur scène plein de fois, et donc il faut créer justement du cinéma à l'intérieur de cet aspect très théâtral. Et je trouve que c'est une des grandes réussites du film, justement, c'est comment tu fais du cinéma à partir de ton réel, à partir de ce qui a été sur scène et que maintenant il faut offrir au public dans une nouvelle forme. Je trouve ça très très beau ce qu'il a réussi à faire là-dessus.
J'ai un film moi qui me vient en tête, et peut-être je suis à côté de la plaque, mais est-ce que c'est similaire à Call Me By Your Name?
Non, dans Guillaume et les garçons à table, c'est plutôt comment la société, comment la famille t'impose justement de rentrer dans une case.
Okay.
Et comment tu t'émancipes de la case que la famille t'a forcé à adopter. Et là où d'habitude, on pourrait se dire qu'une famille classique, hétéronormée, etc., imposerait justement à un enfant d'être justement dans cette hétéronormativité. Là, c'est un peu l'inverse. C'est, on a assigné à ce mec-là, en fait, t'es homosexuel. Et c'est comment, justement, lui, toute sa vie, se pose cette question en mode, bah, on m'a tellement dit que j'étais gay que j'ai commencé à l'être.
Mais en fait,
et
non,
comment,
non.
Justement, je travaille ce truc-là, moi aussi.
Moi, je trouve ça drôle d'avoir inversé les rôles, en vrai.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais c'est intéressant.
C'est vraiment intéressant.
Le concept est super.
Ouais, ouais.
Bah, du coup, sur ces belles paroles, merci d'être venu. J'ai découvert des films qui sont super cool. Du coup, il faut que je regarde ça avec impatience. Puis, bah, je repasse le micro à Victor.
Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis vous avez une question sur l'actualité du cinéma? Et si vous en avez une, eh ben, vous pouvez la poser. Ensuite, je sélectionne si j'ai une réponse et vous passez dans l'émission. Le plus simple, c'est de me suivre sur Instagram. Le lien est dans la description. Et aujourd'hui, la question nous vient de Enzo CRS qui demande « Que penses-tu du premier trailer de Mégalopolis ?» Est-ce vraiment un trailer? Vous connaissez le projet Mégalopolis dont on a parlé plein de fois, le film que Francis Ford Coppola veut financer depuis des années, où personne ne voulait mettre sa thune, et du coup ce qu'il a fait, c'est qu'il a vendu du vin, et puis c'est bon, il a pu faire son film. C'est un peu résumé rapidement, mais en gros c'est ça. Mégalopolis, donc produit par American Zoetrope en totale indépendance, un film qui n'a toujours pas de distributeur aux États-Unis, mais qui a trouvé un distributeur en France, oui, en la personne de Jean Labadie et du Pacte. Ça veut dire qu'on aura ce film avant les Américains. On leur fait bien la. Mais surtout, si vous voulez le voir en France en premier, il faudra vous rendre d'ici la semaine prochaine au Festival de Cannes où Mégalopolis de Francis Ford Coppola fera sa première. Et quitte à faire sa première, eh bien, autant dévoiler des images. J'utilise le terme des images, des premières images, parce que j'ai du mal à considérer ce qu'on a eu de Mégalopolis comme étant un véritable teaser ou un trailer. Là, tout ce qu'on a, c'est un extrait de 2 minutes, sans contexte, sans détail, juste Adam Driver au bord du précipice qui menace de s'y jeter. J'aime bien le fait qu'il te montre à la fois que ça s'inscrit dans une réalité et qu'en même temps, t'as une dimension fantastique avec Adam Driver qui est capable visiblement d'arrêter le temps. J'ai vraiment envie d'en voir plus. Et cet extrait, il a été énormément commenté, que ce soit par des gens qui étaient parfaitement extatiques, soit d'autres qui pouvaient pas s'empêcher de lâcher. Et dis donc, elle est longue cette pub de parfum! Je le répète toujours, on ne juge pas un film sur 2 minutes d'extrait. Non, ça peut permettre de faire une phrase marrante pour gagner des RT sur Twitter, mais si c'est ça votre objectif et votre pensée critique, on va pas aller très loin. Mais de mon côté, personnellement, ces premières images, je l'ai déjà dit à l'instant, mais elle me donne envie d'en voir plus. Déjà parce que je parlais de cette idée d'arrêter le temps, mais ça me donne envie de comprendre dans quoi ça s'inscrit, ce truc un peu fantastique, magique, pourquoi ça existe, est-ce qu'il a un pouvoir, est-ce que c'est un truc en rapport avec la ville, j'ai envie de comprendre. Et puis aussi parce que ce petit bout semble incarner un petit peu l'esthétique du film qui, je suis désolé, dans son utilisation du numérique, me rappelle énormément le travail des Wachowski. La manière de traiter les couleurs, de gérer la perspective entre le vrai et le faux, ça me rappelle ça quand même. Alors que rien à voir, hein. J'ai cherché le nom du chef-op, c'est un Roumain qui s'appelle Mihai Malaimare Jr. et qui avait déjà bossé avec Coppola depuis 2007. Il avait commencé sur L'Homme sans âge et ensuite il a fait Tetro et Twixt. Alors que marrant, j'aime pas du tout l'esthétique de Twixt. Mais là, ça me plaît. Oui, bon, pourquoi pas. Entre-temps, Coppola avait arrêté le cinéma, mais lui a continué à bosser et il s'est occupé de la photo de films divers et variés comme The Master de Paul Thomas Anderson ou Jojo Rabbit de Taika Waititi. Sacré grand écart. Donc, pour répondre à la question qui m'a été posée, bah, c'est difficile d'y répondre. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, j'y pense que ça m'attire et que, encore une fois, j'ai envie d'en voir plus. Il y a peu à dire de plus là-dessus et je sais que on est dans une ère où il faut se forger un avis extrêmement rapidement, même sur 2 minutes. Il faut déjà avoir décidé si le film sera bon ou mauvais parce qu'après le train est passé, la hype a disparu, mon dieu, faut en parler maintenant. Mais en l'état, je considère ces 2 minutes comme étant une promesse. Voilà, une promesse d'un film aux tendances fantastiques dans un New York moderne extrêmement attirant et qui me donne encore une fois envie d'en voir plus. Je me répète, mais
que dire de plus là-dessus? Je profite qu'on parle de Mégalopolis d'ailleurs pour vous dire, vous fixez pas trop sur les retours que va avoir le film à Cannes, parce qu'en plus, la projo se déroule le 17, donc on est au tout début du festival, un moment où l'excitation est encore à son comble, et forcément les retours vont être particulièrement tranchés, il va y avoir zéro nuance. Vous allez avoir des gens qui vont dire « c'est le plus grand film de tous les temps, c'est une révolution », et des gens qui vont te balancer « c'est la pire merde que j'ai jamais vue, tout est affreux ». Et un tel projet, qui est littéralement le projet d'une vie pour le bonhomme, je pense que ça demande un poil plus de recul, de prendre son temps. À un moment où c'est compliqué de le faire au Festival de Cannes, prendre son temps et du recul. Prenons des pincettes et attendons de voir le film. Sans déconner, c'est toujours mieux d'attendre.
Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle de film, non, c'est vous. Si jamais vous voulez passer dans l'émission, il vous suffit d'envoyer un audio à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com. Vous envoyez un audio de 3 minutes, vous parlez du film qui vous plaît, qui vous intéresse, de n'importe quoi. Et à la fin, j'écoute les audios et celui où je me dis tiens, celui-là il est intéressant, pertinent ou quoi, et ben je le sélectionne et il passe le vendredi dans l'émission. Et le film du jour, c'est une comédie, c'est un premier film d'une personne extrêmement connu, il y a tout pour être hypé ou déçu, et le film c'est Unfrosted.
I believe we have split the atom of breakfast.
Unfrosted, c'est le premier long métrage écrit et réalisé par l'humoriste bien connu aux États-Unis, Jerry Seinfeld. Je dis écrit et réalisé parce qu'il avait déjà écrit un film avant, à savoir le film d'animation B-Movie. Il donnait aussi sa voix au personnage principal. Ici, Jerry nous emmène dans les années 60 chez Kellogg's, qui a bien du fil à retordre avec son concurrent principal Post, puisque Post, qui a l'immeuble en face, va annoncer un nouveau produit, et bien que Kellogg's domine le marché, cette situation pourrait vite s'inverser. Kellogg's se doit aussi de trouver une nouveauté, une galette croustillante fourrée avec un goût qui peut aller au micro-ondes et qui inondera tous les petits déjeuners. Et pourquoi pas l'appeler les Pop-Tarts? Tout le monde connaît les Pop-Tarts en France ou pas? Je me demande, parce que c'est vraiment très connu sur le continent américain, c'est un peu plus exotique quand on va en France. Est-ce que vous connaissez les Pop-Tarts? En vrai, je vous disais il y a quelques semaines que, de base, je le sentais pas beaucoup ce projet, cette comédie sur un sujet comme celui-là. Pourquoi pas? Et puis on a vu le premier trailer et j'étais un petit peu rassuré parce que ça avait l'air de présenter un univers coloré, fantastique, qui pouvait être intéressant, qui pouvait être un peu cartoon et fonctionner. Eh ben, on va dire que le trailer était bien monté. Parce que Unfrosted, c'est vraiment pété. T'as les deux films présentés aujourd'hui, à chaque fois, mon ressenti, je me suis planté sur les deux. Non mais c'est bien, bravo Victor, bravo. Déjà parce que c'est une comédie qui n'est pas drôle. Ce qui est un vrai problème, sans déconner. Bon, je sais que l'humour, c'est subjectif, hein, cul à mouton, tout ça, mais ça a quand même des codes, ça a quand même une façon de fonctionner. Là, 90% du temps, l'humour du film ne fonctionne pas. En fait, ça me donne presque le sentiment que Jerry Seinfeld, qui vient de la télévision, de la sitcom, avec des rires enregistrés, écrit comme s'il y allait avoir des rires enregistrés. Et le problème, c'est que les rires enregistrés, là, ils existent pas. Au cinéma, le comique doit avoir un rythme particulier pour réussir à accrocher le spectateur. Et là, aucune chute ne fonctionne, rien ne tombe juste. Il y a des scènes entières où les blagues s'enchaînent encore, encore et encore, et il y en a pas une qui tombe au bon endroit. C'est quand même incroyable. Je pense notamment à une scène au tout début du film où c'est juste deux personnages dans un bureau qui discutent. Il y a rien qui tombe juste. On dirait que c'est un flingue qui tire à blanc en permanence. Et je suis certain que si on remonte le film avec des rires enregistrés, ça marche mieux. C'est vous dire à quel point l'écriture du film a un gros problème. Surtout que dans d'autres scènes, ils se sont rendu compte que la vanne n'était pas assez marrante et du coup, ils ont rajouté des explications des blagues. C'est-à-dire que t'as des scènes entières où c'est juste un personnage qui explique les vannes qui ont été dites juste avant. Mais pourquoi faire? Juste couper! Mais non, t'as un dialogue et puis t'as un personnage qui s'arrête, qui fait « ça voulait dire ça, oui ça voulait dire ça ». Et puis après de nouveau dialogue, « ça voulait dire ça, niquez-vous ». Donc ça déjà, voilà, c'est un gros problème. Quand ton film est censé être drôle, qu'il ne l'est pas, c'est un vrai souci. Mais surtout, qu'est-ce qu'il est moche ce film? Alors c'est Bill Pope qui s'est occupé de la photo. Bill Pope, à la base, c'est l'ancien chef-op de Sam Raimi, qui faisait la photo sur Evil Dead 3, sur les films Spider-Man. Et ensuite, bon bah, il s'est un peu perdu. Il a 75 ans. Son dernier fait d'armes, c'est Quantum Mania. Oui, voilà. Et en fait, tu sens qu'ils ont l'envie de représenter le monde du petit-déjeuner, le monde des céréales, de manière un peu cartoon, de manière un peu parc d'attractions, où tes mascottes préférées qui sont sur tes boîtes d'habitude, et ben là, prennent vie. Le problème, c'est que ça fait pas cartoon, ça fait cheapos. T'as l'impression de regarder la patine graphique d'un mauvais Scary Movie, genre Scary Movie 5. Est-ce que vous voyez la patine que je décris? Et si vous avez pas vu Scary Movie 5, ne le voyez pas. Vraiment, je me le suis infligé. Votre vie vaut mieux que ça. Donc là, on en est rendu au fait que le film a pas de rythme, le film est pas drôle, et le film est laid. Qu'est-ce qui te reste pour sauver un peu le truc? Bah, facile. Des caméos. Jerry Seinfeld, c'est un des humoristes les plus respectés du métier. Il a un carnet d'adresses qui est aussi long que le bras. Il suffit de passer des coups de fil et puis t'as plein de gens qui acceptent de passer 10 secondes la tête dedans. Dans le film, pas dans Jerry Seinfeld. Suivez un petit peu. T'as des gens qui ont des vrais rôles dans le film, hein. Je pense par exemple à Hugh Grant. Voilà, Hugh Grant qui joue la mascotte Tony, le tigre des Kellogg's. Oh, putain, il y a une scène tellement gênante avec Hugh Grant. À un moment, il y a une attaque du bâtiment Kellogg's par toutes les marionnettes qui sont extrêmement mécontentes. Et en fait, ils te font une reproduction de l'attaque du Capitole, vous savez, avec Trump et tout. C'est horrible, c'est ridicule, mais pas ridicule genre c'est drôle, genre ridicule ça va contre le film. Je rappelle que le film se déroule dans les années 60, hein, mais bon, c'est un détail à ce niveau-là. Et à côté de ça, bah, t'as tout le cast du Saturday Night Live qui passe une tête, t'as d'autres humoristes comme Bill Burr, t'as Christian Slater à un moment qui joue un laitier méchant. Je peux pas citer tous les gens, allez sur la page Wikipédia du film, la liste est beaucoup trop longue. Et si vous regardez la bande-annonce, il a été vendu aussi sur le fait que « Attendez, il y aura plein de gens à l'intérieur !» Comme si ça allait sauver de la médiocrité de l'ensemble. Le pire, je crois, c'est une scène du film où ils essayent d'organiser une pub pour leur Mac Kellogg's. Et du coup, bah, ils font revenir John Hamm. Parce que Mad Men, laissez-les tranquilles, la série est terminée depuis 2015. Laissez-les en paix. Puis surtout, t'as bien visé ton public, encore une fois. Un film sur un truc du petit déjeuner. Et puis on parodie Mad Men. Non, mais allez, passons. Ce sera ma conclusion, mais cette avalanche de caméos permet de faire ressentir le vide profond qui parcourt ce long métrage. Il n'y a rien dedans, à part de l'entre-soi et une ambition qui est jamais vraiment aboutie. Le pire, en plus, c'est que je suis sûr que Jerry Seinfeld, il voulait bien faire. Mais vraiment très premier degré. C'est ton premier film, t'en as jamais fait de toute ta carrière, t'es ultra respecté, tu vas pas te lancer là-dedans si jamais t'as pas un vrai truc à défendre. Et le truc, c'est que le film a été tourné en 2022 et ça fait 2 ans qu'il est sur les étagères de Netflix et que Netflix ne sait pas quoi en foutre. Et tu m'étonnes quand tu vois le résultat. Mais voilà, ça existe et c'est un peu triste à voir. Ou à supporter. Voir ou supporter, voilà. Utilisez le terme qui conviendra le mieux à votre expérience devant une Frosted.
It's breakfast. Things happen.
Isn't this a cereal company? Why did my husband explode?
C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ceux qui regardent la version vidéo l'apprendront, mais c'est la dernière émission où j'ai ce gros fauteuil jaune derrière moi. Le fauteuil jaune va nous quitter. Je vous expliquerai plus ça en détail à la prochaine émission, vous verrez. Mais en attendant, c'est terminé. On se retrouve mercredi. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore...
Non, mais oui, bien sûr, mais c'est fini, cette histoire-là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.